J'aimerais que nous lisions trois passages. Le premier dans Hébreux 10, au verset 1 à 18. Et deux passages plus courts que je lirai tout de suite et qui serviront à donner un contexte à l'ensemble de cette prédication. Hébreux 10, versets 1 à 18. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens ». Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » J'aimerais que nous lisions un autre verset dans Matthieu 5, qui est un verset très court. Au verset 48, qui est donc le sermon sur la montagne, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Et j'aimerais que nous lisions encore dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Peut-être que vous avez deviné de quoi je vais m'entretenir avec vous ce matin. On va plutôt parler de la perfection. C'est un mot un peu étrange. C'est un mot qui évoque des sentiments partagés. La perfection, c'est l'atteinte des records, n'est-ce pas ? On a tous les quatre ans, les Jeux Olympiques, on a régulièrement des manifestations sportives où chacun tente d'atteindre la perfection, c'est-à-dire le record, l'absolu, quelque chose qui n'a jamais existé. Et je cours, et je cours, et je cours, et on divise les secondes autant qu'on peut pour pouvoir sans arrêt être le plus rapide, mais un jour, ça s'arrêtera, c'est obligé. Donc la perfection évoque ça, l'atteinte d'un record, et ça motive donc toute une partie des personnes qui sont intéressées par les sports ou par n'importe quelle autre activité où on vise la perfection. Certaines personnes ont ce tempérament d'être perfectionnistes et de toujours essayer d'amener les choses au plus haut, au mieux qu'on puisse faire. En général, ils regardent ce qui est moins parfait que ce que eux savent faire comme étant nul. Et il y a donc un deuxième groupe de personnes qui effectivement a du mal avec les performances. Un groupe qui est sans arrêt en difficulté, sans arrêt essaye d'accomplir au mieux les activités quotidiennes. Quand il court, eh bien, il peut courir aussi vite qu'il peut. Il est toujours le dernier. Quand il va à l'école, il peut travailler aussi fort qu'il veut. Il est toujours le dernier. Et pour lui, la perfection, c'est signe de quolibet, c'est signe de paresse, c'est signe de découragement, surtout dans sa vie. C'est ce que ça produit, du découragement. Les philosophes de l'Antiquité avaient l'habitude de penser la perfection comme un cercle. Ils disaient que dans le cercle, il n'y avait pas d'accident, il n'y avait pas d'angle. Le cercle était la forme parfaite, celle qui était avec des contours lisses, avec des contours finis. Et ils considéraient l'infini comme étant imparfait. Avec la venue du christianisme, les choses ont changé, et les notions ont été inversées complètement, et c'est Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, c'est Dieu capable de toute chose, Dieu infini, qui est devenu parfait. Et l'homme limité devenu imparfait. Thomas d'Aquin disait « Dieu est l'idéal de la perfection auquel se comparent toutes les autres perfections, bontés et beautés nécessairement moins parfaites. » Lorsque nous pensons à Dieu, dans le cadre de ce mot, nous pensons évidemment à Dieu et à tous ses attributs, à toute sa connaissance, toute sa capacité à être à tous les endroits en même temps, son haut degré d'excellence qui est infini. La perfection de Dieu ne se compare à aucune autre, et pourtant, elle est un modèle pour chacun de ses enfants. C'est-à-dire que on la sait inatteignable, mais nous sommes poussés à vouloir lui ressembler, n'est-ce pas? Elle est un exemple pour chaque homme et chaque femme. Et c'est ce qui a fait que les hommes et les femmes dans la chrétienté ont cherché des moyens d'atteindre cette perfection. Et si on lit un peu l'histoire de l'Église, on voit que certains ont bâti des endroits où on pouvait se retirer, se dégager des vicissitudes du monde, se cloîtrer, échapper ainsi aux tentations, se consacrer uniquement à la méditation de la Bible et aux actes religieux, et ainsi essayer d'atteindre la perfection. Certains ont versé dans des degrés élevés de mysticisme, pensant que par là, ils atteindraient la perfection qu'ils pensaient que Dieu leur demandait d'atteindre. Mais l'objectif, c'était toujours cette recherche d'une perfection qui bibliquement leur semblait parfaite. Mais, alors moi je ne sais pas, peut-être que nous avons, nous, cette tentation de rechercher dans notre foi une sorte d'infaillibilité, une sorte de chemin qui nous amène à un endroit où nous ferons toutes choses de façon excellente. Un endroit où on aura évité toutes les... On aura dégagé en fait toutes les imperfections de notre vie chrétienne. On a peut-être ce rêve qu'un jour on pourra se réveiller et se dire, mais ce matin, ça y est. Ce matin, ça y est. Je suis parfait. C'est peut-être une tentation pour certains, peut-être cachée. Mais je ne crois pas que c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Et ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. La perfection, si on, juste dans les quelques versets, dans les quelques mots des paroles de Jésus, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait, peut nous laisser à penser que c'est ça, la vie. C'est que on atteint un degré d'excellence. On juge parfaitement les choses. Comme le Père juge les choses. N'est-ce pas? Nous avons vu dans une autre prédication que toute chose que Dieu fait est parfaite. Tous les actes qu'il pose, toutes les choses qu'il dit, que ce soit dans son amour ou dans sa justice, Dieu est parfait. Et il fait toute chose parfaitement. Qu'il s'agit d'un pardon ou d'une condamnation, c'est parfait. Et peut-être que c'est cela que nous cherchons à atteindre. Si Dieu est parfait de cette façon-là, moi, je veux aussi être parfait dans mes jugements. Je veux être parfait dans mes condamnations. Je veux être parfait dans tout ce que je fais dans mon quotidien. Mais dans cette parole de Jésus, en fait, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus ne dit pas soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il pose une question qu'on peut entendre si on est attentif. Cette question, c'est est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es un homme ou une femme libre? Alors, on va reprendre le verset. Jésus, dans les versets précédents, dit « Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Est-ce que dans ta vie, tu es libre de faire cela? Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Est-ce que tu es libre de faire cela pour ton frère ou pour ta sœur? es-tu libre de le faire pour tes ennemis également? Parce que, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ce que Jésus est en train d'expliquer, c'est que la perfection, ce n'est pas un état que l'on doit atteindre. Ce n'est pas un summum auquel on doit parvenir. Mais c'est une logique d'action. Et la question qui sous-tend, c'est est-ce que tu es libre d'agir de cette façon-là? Est-ce que dans ta vie quotidienne, tu connais la liberté qui te permet d'inverser les notions habituelles de la justice, qui est de rendre coup pour coup, qui est de dire, mais si on t'a fait cela, il vous a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Est-ce que les choses ont été inversées? Est-ce que dans ta vie, cette liberté qui est de loin supérieure, quelle liberté de pouvoir bénir son ennemi. Est-ce que vous vous rendez compte ce que cela représente? Dieu vous a fait fils et filles de Dieu. Et cela vous donne une capacité que vous n'aviez jamais auparavant. Mon frère, ma sœur, mon ennemi, pour ce que tu me fais, je te bénis. Est-ce que nous connaissons cette liberté ou est-ce que nous sommes prisonniers d'une sagesse charnelle qui nous oblige à rendre coup pour coup? Pas nécessairement négativement, n'est-ce pas? Ça peut être aussi positif. Ah, tu m'as fait du bien, je te fais du bien. Non, est-ce que vous êtes libre de dire « Tu m'as fait du mal, je te fais du bien. » Et c'est cela que j'aime faire. J'apprécierais un verre d'eau. Excusez-moi, je... N'est-ce pas? Nous voyons dans Hébreux, on va retourner là où on était tout à l'heure. Il y a une façon de vivre notre vie qui est une façon tout à fait légaliste. Et cette façon de vivre, merci, oh, c'est merveilleux. Il y a des paroles de bénédiction pour ceux qui donnent de l'eau à leurs frères. Ouais. N'est-ce pas? Nous pouvons vivre cette volonté de perfection comme une loi que nous nous appliquons à nous-mêmes. Il faut que j'y arrive. Mais au verset 9 du chapitre 9, il est dit. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Et chapitre 10, verset 1, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est cela que Jésus dit lorsqu'il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait » à la fin du déroulé de son discours. C'est qu'on vous a dit d'agir comme ça. Et cela, ça ne vous a pas amené à la perfection. Mais moi, je vous dis maintenant, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et la question qui sous-tend derrière, c'est « Êtes-vous libre ?» L'apôtre Paul affirmait la même chose aux Corinthiens dans 2 Corinthiens au chapitre 1. Alors, est-ce que c'est 1 verset 12 ou 2 verset 12? Je suis dans Colossiens. 2 Corinthiens 1, verset 12. Oui. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout avec votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. N'est-ce pas, agir selon une sagesse charnelle ne nous donne pas une conscience libre. C'est cela qui est dit. Ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. C'est cette question aussi qui sous-tend les paroles de Jésus. Est-ce que vous êtes libre et est-ce que vous avez été touché par la grâce de Dieu? Parce que les deux vont ensemble. On est libre lorsqu'on a été touché par la grâce de Dieu. Jésus n'attend pas que nous soyons parfaitement équilibrés dans nos jugements sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Selon votre éducation, vous avez un jugement plus ou moins dur sur vous-même. Ceux qui sont nés en Alsace ont des jugements très durs sur eux-mêmes, parce qu'il y a une forme de culture germanique qui est très sévère, qui est issu de la réforme, où on ne laisse rien passer, rien doit dépasser, tout doit être au carré, clair, le jardin doit être nickel, la maison doit être rangée, propre, du début à la fin, la cravate doit être parfaitement ajustée, les chaussures parfaitement vernies. Le dimanche matin, lorsque nous allions à l'église avec mes parents, c'était les quatre frères et sœurs dans le garage, en train de cirer les chaussures. Il fallait que ça brille. Et aussi, on reçoit cet héritage où ce qui est parfait est propre et bien rangé. Mais ce n'est pas de cela que Jésus parle. Ce n'est pas de cela dont il s'agit dans les paroles de notre Seigneur. Les paroles de notre Seigneur, c'est de dire, lorsque on ne t'aime pas, réponds par l'amour. Ça sonne bien nos oreilles parce que nous l'avons entendu souvent déjà. Mais est-ce que ça fait partie de notre pratique? Est-ce que ça fait partie de notre logique d'action? Ou est-ce que notre logique d'action est encore celle où nous disons non, je ne peux pas. Tu m'as fait ça, alors je ne peux pas faire autrement, je vais te le rendre. Ou au mieux, je dis rien, mais j'en pense pas moins. Dans quelle logique d'action sommes-nous entraînés? Est-ce que notre conscience est libérée? Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour faire court, c'est la nouvelle naissance, n'est-ce pas? C'est pas autre chose. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est que si tout ce qu'on vient d'entendre là me concerne, si effectivement je ne suis pas dans cette logique d'action, la question importante qui se pose, c'est « Mais est-ce que je suis né de nouveau, finalement ? Est-ce que la grâce de Dieu est venue dans ma vie, vraiment ? » N'est-ce pas, c'est ça, c'est que la nouvelle naissance nous libère des carcans, d'une loi, qu'il s'agit de celle qu'on peut trouver dans la Bible, mais aussi la nôtre, celle qu'on s'est imposée nous-mêmes, et souvent elle est beaucoup plus forte. Dieu n'a pas retiré la loi. Christ est venu avec quelque chose de plus puissant, mais elle reste. Est-ce que nous avons connu la gloire de Dieu? Est-ce que nous avons connu la grâce de Dieu? Est-ce que nos consciences ont été libérées et est-ce que notre façon d'envisager nos actions et nos relations avec les personnes a réellement été transformée? Est-ce que ça a été inversé? Si on retourne dans Hébreux, excusez-moi, je vais lire d'abord dans Romains, chapitre 4 et au verset 16. Si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi. Cette logique d'action s'installe dans nos vies, par la foi. Et par la grâce. Les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit une grâce. Et au chapitre 1 de Jean, on lit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. N'est-ce pas? Cette logique d'action, renouvelée, s'installe dans nos vies par la foi. Et cette foi nous permet de venir à Dieu qui nous fait grâce après grâce. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on plante un clou? En tapant dessus plusieurs fois. C'est ça la grâce de Dieu. C'est que Dieu nous donne et nous donne et nous donne. Sauf que le clou est tellement long que jamais on arrive à le planter complètement. C'est une image un peu rigolote de la grâce, mais c'est quand même de cette façon-là que Dieu nous installe dans une autre façon de penser la vie, une autre façon de vivre la vie. Et c'est ça qui correspond à la plénitude, nous dit Jean. La plénitude, nous la recevons grâce après grâce. Christ nous a affranchis pour que nous exercions cette foi qui nous amène à la plénitude ou à la perfection. Donc dans Hébreux, dans un des versets que j'ai lu précédemment, au chapitre 10, j'aimerais m'arrêter un petit peu. Sur le verset 14, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Alors vous me direz, mais tu vois, Daniel, on est amené à la perfection pour toujours. Et on est sanctifié, déjà. Alors, il faut lire, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours, ça c'est juste, ceux qui sont en train d'être sanctifiés. Il y a peu de traductions qui le traduisent bien, mais dans le grec, on est dans le présent continu, c'est un état qui est en cours et qui n'est pas arrêté, qui a commencé et qui est, voilà, c'est en marche. On n'est pas sanctifié totalement, complètement, on est en cours de sanctification. Il n'y a que la English Standard Version qui le rend correctement, et évidemment le grec. Donc, nous ne sommes pas avec zéro défaut. Nous ne sommes pas avec zéro péché. Nous ne sommes pas avec zéro maladie. N'est-ce pas? C'était toute une mode dans les entreprises, le zéro défaut. Hein, il fallait, quand on créait un produit, il y avait un checklist et il fallait vérifier à tous les niveaux. Pas de défaut, pas de défaut, pas de défaut. Et on pouvait sortir la pièce et marquer zéro défaut. Mais il y en avait toujours encore. C'est seulement longtemps après qu'on s'en aperçoit, mais il y avait toujours des défauts. Donc nous sommes déclarés parfaits devant Dieu pour toujours. Ça, c'est ce que a fait une seule offrande. Une seule offrande accomplie par le grand souverain sacrificateur, qui était Jésus lui-même. Une seule offrande a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont aujourd'hui en cours de sanctification. C'est ça que cela veut dire. Et au verset 17, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » C'est pas la même chose que ce que nous on fait. Nous, on a des retours, des fois qui datent d'il y a longtemps. Quand j'ai fait ceci, quand j'ai fait cela. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se pardonner.
et qui sacrifie sans cesse. Et je reviens à ma question, à la question de Jésus, mais est-ce que tu es libre de cela? Est-ce que tu as été libéré? Est-ce que la grâce de Dieu est venue dans ta vie? Et est-ce que le péché dont Dieu a dit qu'il est définitivement pardonné est vraiment définitivement pardonné dans ta vie? Ou est-ce que tu revis sans arrêt les mêmes choses? Et tu souffres de cela. Et tu le fais payer à ton entourage. Tu le fais payer à tes parents. Parce que tu trouves que c'est juste de faire comme cela. Tu t'es habitué à vivre comme ça. La perfection. C'est l'acte que Dieu accomplit à la croix, par lequel il nous place dans une nouvelle alliance qui nous offre un pardon total, un oubli complet pour chacun de nos péchés du passé. Et il n'y a plus à revenir dessus. Il n'y a plus à rabâcher les choses. Il n'y a plus à chercher à s'auto-justifier. À chercher des raisons sociales, familiales ou autres. Par une seule offrande, Christ a rendu parfait. Toi, toi, toi. Une seule offrande. Tu n'as plus à vivre sous la condamnation, mais dans la liberté. Dieu, et c'est pour cela que nous sommes encore en vie aujourd'hui, nous voit parfaits au travers de son Fils, Jésus-Christ. Bien que, en réalité, nous soyons imparfaits. Vous comprenez ? Il attend de nous que nous persévérions et que nous continuions à rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. L'apôtre Paul disait que il n'avait pas lui-même atteint la perfection, mais qu'il courait comme pour l'atteindre. Pour la saisir. Le Seigneur n'attend pas autre chose de nous que cela. Que nous continuions à persévérer et à rechercher la sanctification dans la foi. Pour que ce soit une grâce et pas le résultat d'une sagesse charnelle qui va nous lier à nouveau et nous rendre incapables de bénir nos ennemis et de faire ce que la vie chrétienne nous engage et nous permet de faire. Cette logique d'action nouvelle que Dieu veut créer dans chacun de nos cœurs et préserver dans chacun de nos cœurs. Il veut le faire et veut continuer aujourd'hui même. Et j'aimerais que nous puissions juste courber nos têtes pendant une minute ou deux et que chacun dans son cœur prie et dit « Seigneur, est-ce que tout va bien avec moi? Est-ce que j'ai tout compris? Seigneur, est-ce que j'ai besoin de naître de nouveau?